marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il est très précisément 13h30. Francisco Franco Bahamonde entre dans sa dernière demeure.
Le corps de Franco, où comment s'en débarrasser?
Pour célébrer le 20e anniversaire de la fin de la guerre civile,
Maître Henri Torres,
le général Franco, au début de ce mois, inaugura en grande solennité le mausolée de la Vallée des Morts. Le gigantesque monument, édifié à 30 km de Madrid, a exigé 18 ans de travaux et coûté plus de 6 milliards de francs. La crypte peut recevoir plusieurs centaines de milliers de cercueils. La haute ambition du chef d'État espagnol est de faire de ce monument le symbole de la solidarité silencieuse, du courage et de la mort.
Deux dates anniversaires d'abord. Février 1939, un demi-million de républicains espagnols vaincus traversent les Pyrénées, c'est la Retirada. Le Premier ministre Pedro Sanchez est venu la commémorer il y a quelques jours à Montauban et à Collioure. 1959 maintenant, Franco inaugure, on vient de l'entendre, le site de Los Caídos où il a réservé sa place pour l'éternité. Il y sera inhumé en 1975. Pendant les deux premières décennies de la nouvelle démocratie espagnole, un pacte de réconciliation décide d'un commun accord avec les franquistes d'un côté, les antifranquistes de l'autre, de sceller la mémoire. L'amnistie couvre les délits politiques commis par les uns et les autres avant décembre 1976. Mais il est avéré dans bien des circonstances que si les plus anciens parviennent à voiler le passé, la génération des petits-enfants cherche à en savoir davantage. En 2007 est votée par celle-ci une loi sur la récupération de la mémoire qui entend donner une satisfaction symbolique aux vaincus du franquisme. Entre autres questions, celle de la différence de traitement entre les morts républicains et les morts franquistes va se poser de plus en plus crûment. Le silence des autres, c'est le documentaire produit par Almodovar qui vient de sortir en France, montre ainsi une femme nouant un bouquet de fleurs sur une rambarde d'autoroute. L'autoroute a recouvert la fosse commune où est ensevelie sa mère. La comparaison avec Los Caídos devient insupportable. Le tombeau de Franco, là-haut, est veillé par une communauté de bénédictins, visité par les touristes, vénéré par les pèlerins du fascisme. Aussi, Pedro Sanchez, on revient à lui, qui a fait de Los Caídos un enjeu symbolique, vient-il de donner 15 jours à la famille de Franco pour trouver une autre destinée au corps qu'il veut exhumer? Alors à cet instant précis, il ne suffit pas d'invoquer les effets de la longue durée dans la mémoire. Le Premier ministre socialiste fait aussi un calcul politique à court terme. Minoritaire au Cortés, il n'a même pas pu faire voter son budget. Et des élections législatives auront lieu le 28 avril. L'exhumation du dictateur pourrait lui attirer des suffrages. Seulement, la conjoncture politique n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Le bipartisme alors dominant a explosé. La Catalogne est au bord de la sécession. Vox, un nouveau parti d'extrême droite, tire profit de cette nouvelle donne et va sans doute entrer au Cortés. Lui aussi risque de gagner des suffrages après la décision de Pedro Sanchez, dont on se demande d'ailleurs comment elle pourra s'appliquer.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Daniel Rosenberg, bonjour.
Bonjour.
Qui calcule sur le court terme, mais qui voit aussi les choses sur le long terme. Un maître livre sous votre signature, dont on a déjà parlé ici, est consacré à la mémoire du judaïsme en Espagne. Mais vous regardez aussi les choses au niveau international. C'est-à-dire que ce qui se passe en Espagne, on l'expliquera tout à l'heure, au moment de la sortie du franquisme, a été regardé de près par d'autres régimes qui sortaient ou allaient sortir du système autoritaire.
Oui, en effet, bon, la façon dont l'Espagne est sortie du franquisme a été perçue, du moins dans un premier temps, sur deux décennies, comme une façon exemplaire. On a parlé du modèle espagnol, du consensus espagnol, du modèle espagnol, et notamment à l'Est, et des pays donc qui sortaient du bloc soviétique, la Pologne notamment, ont ausculté de très près ce qui se passait, en y voyant une sorte de modèle à importer.
Sauf que la mémoire est faite de rebonds et elle est imprévisible. Alors, on va repartir de 1959, c'est-à-dire du moment où est inauguré le mémorial, la basilique de Los Caídos, à une trentaine de kilomètres de Madrid. Le caudillo inaugure en disant ceci, mais quelle inspiration on va l'entendre. Faudrait-il, pour raconter les actes héroïques de nos fiers combattants, pour refléter l'enthousiasme fauché tellement de fois de ceux qui, avec les premiers rayons du soleil du matin, sont tombés, un sourire aux lèvres, en attaquant les positions ennemies.
Quelle inspiration serait précise pour raconter les héroïques gestes de nos caïdos, pour pouvoir refléter l'enthousiasme llegado tantas veces en flor de los que con los primeros rayos del sol de la mañana caían con la sonrisa en los labios al asaltar las posiciones enemigas o para encomiar la firme tenacidad de los defensores de los mil pequeños alcázares en que se convirtieron en la nación las residencias de las pequeñas guarniciones o las casas cuartel de la Guardia Civil defendidas hasta el límite de lo inverosímil contra fuerzas superiores y sin esperanza de socorro.
Et le caudillo d'évoquer les mille petits alcázares, du nom de l'alcázar de Tolède, ces petites garnisons, ces casernes de la guerre de civil qui contre des forces supérieures ont résisté, elles étaient la nation. Vous pouvez nous décrire Los Caídos, l'architecture démonstrative de l'endroit?
Oui, c'est un monument pharaonique. Qui donc comporte une crypte et ce monument donc qui est très très imposant, qui est surmonté d'une croix elle-même très imposante.
On dit 130, 140, 150 mètres.
Oui, je ne sais pas, mais en tout cas on la voit même à l'atterrissage des avions sur Madrid.
Et je peux me permettre cette comparaison, la croix de Colombey c'est 44 mètres.
Voilà, c'est
donc
beaucoup
c'est
plus
trois
modèle.
Fois voilà. La croix
et
de
elle
Colombey.
Elle domine la Sierra de la de Guadarrama. Non
et sont là des bénédictins, avec un père abbé, on verra que le père abbé d'aujourd'hui résiste des quatre frères, et de tous ses frères, à la possibilité de l'exhumation. Le pape Jean XXIII est venu en 1960 hein, pour consacrer la basilique.
Ben, il faut effectivement rappeler la période 1959-1960 qu'on vient d'évoquer. On est encore dans la première phase du franquisme, c'est-à-dire celle qu'on a appelée le national-catholicisme. C'est-à-dire un franco tout-puissant, gouvernant avec l'aide de l'armée et l'aide de la phalange, mais surtout l'aide de l'Église qui est toute-puissante.
Alors la phalange et son héros, Primo de Rivera. Alors vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup d'importance, le corps de Primo de Rivera. Mais d'abord, qui est-ce Primo de Rivera? Il est enterré tout de suite, lui.
Alors lui, ce leader donc est décédé au début de la guerre. Donc les phalangistes ont rallié le régime de Franco. Le régime de Franco, surtout en ses débuts, a été un régime réalisant un équilibre très fragile entre ses forces qui étaient les militaires, les phalangistes et l'Église. Et
vous voulez dire que Franco était content de pouvoir mettre le corps mort de son confrère.
Ça évitait des choses plus compliquées.
Et
durant la guerre,
vivant.
Les phalangistes avaient été quand même. Alors, ça avait un rôle emblématique puisque, notamment au niveau idéologique, enfin, l'enseignement de la phalange a contrôlé l'enseignement en Espagne, et de tous les niveaux, enfin, a encadré.
Alors le caudillo vieillit, on peut pas dire que il y a une transformation profonde du régime dans les dernières années, mais une lente dénivellation avec la préparation d'une génération nouvelle qui admettrait la modernisation, l'européanisation, l'américanisation, peut-être de l'Espagne, et la mort tant attendue a lieu en novembre 1975. C'est drôle, aux obsèques du caudillo, il y a très peu de chefs d'État étrangers. Pinochet, le dictateur colombien, le prince régnier de Monaco, le roi de Jordanie. Mais la télévision française diffuse en direct les obsèques.
Franco, la dépouille mortelle du caudillo d'Espagne sur un camion militaire entouré de sa garde personnelle en manteau blanc remonte actuellement Pintor Rosales, la grande avenue de Madrid. Derrière lui, debout, dans une Rolls-Royce découverte, Juan Carlos Ier, roi d'Espagne. Il monte lentement vers l'autoroute du nord-ouest qui le conduira à la vallée des morts, à la vallée de Los Caídos. Le cercueil du général Franco vient d'arriver sur l'esplanade de la basilique de Los Caídos de la vallée des morts. Dans le fond de cette vallée, dans la grisaille du lointain de la brume, le palais de l'Escorial. Le sinistre palais de l'Escorial qui ne s'éclaire qu'au couchant de quelques lueurs roses, percées de fenêtres minuscules grillagées de fer, où Charles Quint et bien d'autres rois d'Espagne ont dirigé ce pays. Accueillis par le clergé des bénédictins, qui sont les gardiens de cette basilique souterraine, où sont enterrés 50 000 morts de la guerre civile, en majorité bien sûr des nationalistes. Et il va y retrouver celui qui a été exécuté le jour même, 36 ans avant où Franco est mort, le jour anniversaire, le fondateur de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Silencio.
Malgré les demandes réclamées du clergé, silencio, silence, vous entendez les phalangistes chanter des hymnes, et notamment l'hymne de la phalange.
Incorrigible phalangiste, le ton du journaliste ne nous prépare pas à la transition qui va avoir lieu très rapidement et renverser complètement la situation.
Oui, tout à fait. Bon, il faut dire donc qu'à la mort de Franco, la succession semblait bouclée, en tout cas ficelé, puisque le prince, donc qui deviendra le roi Juan Carlos, avait été désigné comme successeur officiel, donc du caudillo. Peu de temps avant, d'ailleurs, Franco avait eu cette expression « tout est ficelé, bien ficelé », en évoquant sa succession. Et la difficulté, effectivement, est venue de la nécessité de sortir de ce régime autoritaire sur laquelle s'accordaient toutes les forces en présence, hein, donc y compris l'Église. Enfin, il s'agissait de construire la démocratie, le problème étant de comment y parvenir.
Et c'est là que le pacte de réconciliation, décidé d'un commun accord par les différents protagonistes, y compris le Parti communiste sorti de la clandestinité, exhorte à l'oubli.
Oui, je n'emploierai pas cette expression « pacte de réconciliation » parce que la réconciliation, c'est une ambition qui s'incarne difficilement. Il s'agissait donc, pour déboucher sur une nouvelle constitution, donc instaurer un début de démocratie en Espagne, de s'accorder à minima et en mettant un peu entre parenthèses ou tout à fait les questions qui fâchent. Et donc, cette constitution qui a été donc votée en 1978, elle a été précédée d'une loi qu'on a appelée donc la loi d'amnistie de 1977 que vous avez mentionnée et où il s'agissait au fond de permettre aux prisonniers du franquisme de sortir de prison et aux responsables des persécutions de ne pas être jugés. Alors on a dit à l'époque, et moi aussi j'ai employé cette expression que tout le monde employait, pacte d'oubli, bon aujourd'hui je l'emploierai plus. Bon, effectivement, une loi d'amnistie, c'est une injonction d'oubli. Mais dans les faits, ce qui s'est passé, c'est un pacte de silence. C'est-à-dire le fait que, dans l'espace public, on n'évoquait plus ces questions qui fâchent. Bon. Ce qui, évidemment, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans les familles et pour les individus, où la mémoire continue à travailler, à se transmettre.
Un bas-bruit se transmettait, par exemple, non seulement les chants phalangistes d'un côté, mais les chants républicains de l'autre. Voici le passage de l'Ebre qui a été entonné par tant de républicains espagnols vaincus en février 1939. C'est une date anniversaire quand ils ont franchi les Pyrénées. Et puis, quand on garde un cadavre dans une famille, on aura un écho d'UNESCO dans un instant. Le cadavre ne se tient pas nécessairement tranquille.
Una noche el río pasó, ay Carmela,
y el
Y a la tropa si pasa la
bomba, 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 bomba.
Buena paliza recibió, ay Carmela, ay Carmela.
Buena paliza recibió, ay Carmela, ay Carmela.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Franco, ou comment s'en débarrasser, puis j'ai annoncé Ionesco, de ses pièces extraordinaires, Amédée, ou comment s'en débarrasser dans un appartement. On a conservé un corps qui, soudain, s'allonge, les pieds sortent du lit, passent la porte.
Ça glisse! Il y a des germes de champignons partout sur le plancher. Ce n'est pas l'amour qui va débarrasser le parquet! Il grandit, il grandit! Tu as encore oublié de fermer ses paupières? Comment peut-on être étourdi à ce point? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ce sont ses yeux qui éclairent. Pas la peine d'allumer la lampe. Tant mieux, sa lumière est plus douce.
Il a tout de même du talent.
C'est bizarre. Je m'étais habitué à lui.
Moi aussi. Enfin, c'est pas une raison pour ne pas s'en débarrasser. Enfin, c'est maintenant, regarde l'heure, c'est pour tout de suite.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est décidé, je ne reviens plus sur ma parole. Pourtant, j'avoue que... Oui, je regrette sincèrement de m'en séparer. S'il s'était tenu tranquille, on l'aurait peut-être gardé. Après tout, il a vieilli chez nous, dans notre maison.
Alors ça, c'est le corps de Franco à Los Caídos. Et puis, on est dans une famille. Tout se joue, Daniel Rosenberg, dans le secret des familles. Dans les interrogations, je parle aussi bien des républicains, mais d'abord des républicains que des franquistes, des petits-enfants aux enfants.
Oui, on a beaucoup parlé, d'ailleurs, pas seulement à propos de l'Espagne, de ces générations qui se succèdent, n'est-ce pas, la génération des acteurs, celle des enfants silencieux, et puis les petits-enfants qui se réapproprient la mémoire et posent des questions. C'est un petit peu forcé, au sens où d'abord, il n'y a pas seulement l'effet générationnel en Espagne, il y a aussi la perception d'une démocratie stabilisée. C'est-à-dire, durant 20 ans, l'ensemble de la population espagnole avait tout à fait en mémoire les atrocités de la guerre civile. Le fait que, sous Franco, quand même, à la fin... on avait accédé à une certaine société de bien-être et qu'il ne s'agissait pas de réactiver tous ces conflits. Donc, il y a ce phénomène, d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas que les petits-enfants. Moi, j'ai assisté en 2007 à une exhumation de fosse à Ucles, dans la région de Cuenca. Il y avait donc des enfants, des personnes assassinées qui étaient là, des personnes qui avaient 80 ans, et elles-mêmes étaient actives. J'ai interviewé ces personnes, et ce qui est très évident, et c'est ça la mémoire telle qu'elle peut fonctionner à propos des disparus, des fausses, et notamment dans cette Espagne rurale telle qu'elle s'est perpétrée durant longtemps, c'est le fait que tout le monde savait où étaient les corps, ce qui s'était passé, et l'extrême difficulté à cohabiter dans des lieux où les assassins habitaient à côté.
Ce dont témoigne ce reportage d'interception sur France Inter, Philippe Reltien, s'était rendu non loin de Teruel, où une bataille terrible a eu lieu, et où les prisonniers républicains ont été, après leur défaite, exécutés un à un pendant de longs mois.
Il descendait pendant quelques instants jusqu'à le mur, où était fusillé quelques instants après. Pendant tout le matin, les soldats entouraient ces parties du village, empêchant la personne de s'approcher à l'endroit du fusillement.
De l'exécution.
Et jusqu'à le soir, ces parties étaient fermées.
Et jamais d'inscription?
Jamais. C'est long, on a dit. Parfois, les camarades ajoutaient de petits papiers avec le nom, mais ces papiers sont perdus, malheureusement.
Par contre, il y a des choses qui restent. En 70 ans, des boutons, des...
Oui, plusieurs de choses. Hein. De morceaux de déshabillement.
Des morceaux d'habits.
Oui, oui.
Des chemises,
oui,
des pantalons.
Des chemises, mais des bonnets. Des souliers. Il y a beaucoup de choses qui restent. Oui.
Comme vous allez de temps en temps boire un coup ici au village, au café. Mm-hmm. Est-ce que les langues se sont déliées?
Pas encore. Bien sûr, tout le monde savait ce qui s'est passé ici, bien sûr. Mais pas de détails. Peut-être de la honte. La honte de voir reconnu son village lié dans des instants pas glorieux de l'histoire.
Cette observation sur ce village proche de Terrebelle, ça corrobore ce que vous disiez. Il fallait aussi que s'ouvre la possibilité de se retrouver face à face avec son passé, localement.
Localement, oui. En fait, on parle évidemment, ces dernières années, on a beaucoup parlé donc des disparus, des fosses communes et des différentes actions qui ont été intentées depuis le début des années 2000. Mais il y a eu, dès la fin du franquisme, des actions discrètes, c'est-à-dire dans des villages, une famille qui exhumait un corps et qui, sous l'œil bienveillant ou neutre du prêtre local, enterrait leur mort au cimetière. Il y a eu toutes sortes d'actions, mais c'était effectivement dans le secret des familles, dans le secret des localités.
Alors, peu à peu, des événements sont indiqués par des dates. 2002, condamnation du coup d'État au Cortès, le coup d'État 36. 2004, une commission sur la situation des victimes du franquisme. 2007, une année de la mémoire. Et cette année, c'est aussi la loi de la récupération de la mémoire. Qui est Premier ministre en 2007? C'est Zapatero.
En 2007, oui.
Donc c'est un petit-fils de fusillé, et un socialiste. Et que dit cette loi?
Alors déjà, elle a un nom. On l'appelle loi de mémoire historique pour faire un raccourci. Mais déjà, elle a une formule, un intitulé totalement alambiqué. Elle s'appelle « Loi qui reconnaît et élargit les droits et établit les mesures » en faveur de ceux qui ont subi la persécution ou la violence pendant la guerre civile et la dictature. Alors il s'agit en fait, après plusieurs années de préparation, une série d'amendements, une série de négociations autour des termes, etc., de satisfaire la demande de ceux qui se réclament au sens large du camp antifranquiste. Il y a plusieurs revendications. C'est l'accès aux archives et, disons, l'établissement de la vérité sur les faits, ce qui n'était pas le cas. C'est la condamnation des jugements prononcés par le franquisme. Il y aurait eu, selon les historiens, 50 000 condamnés à mort, enfin jugés. Et donc que l'on déclare ceci caduque. C'est toute l'histoire des disparus des fosses communes que l'on aide donc à les sortir. Et puis donc là c'est accordé au sens large, le retrait de l'espace public de tout ce qui est à la gloire du franquisme.
Alors on peut s'arrêter sur ce point parce que ça va nous mener à la polémique actuelle sur Los Caídos, les statues de Franco par exemple. La dernière statue
notamment,
de Madrid,
la statue équestre de Franco devant un ministère, donc qu'il s'agissait donc de déboulonner. Il y avait d'énormes polémiques sur ce thème et la décision a été prise de le faire à l'aube derrière une palissade. Mais on a déboulonné là donc la dernière statue de Franco à Madrid.
Les noms des places, les noms des rues.
Les noms des rues, ça s'est fait très progressivement. Bon, il ne faut pas oublier que l'Espagne a un système politique à deux vitesses, puisqu'il y a l'État central et puis il y a 17 communautés autonomes. Et les régions, selon leur couleur politique, ont été plus ou moins vite dans la façon de changer les dénominations.
Et jusqu'à peu, le système politique était bipartisan à Madrid. Et il y avait une alternance du Parti populaire et du Parti socialiste. Le Parti populaire a été déboulonné, à sa grande surprise, il y a quelques mois, par le jeune leader socialiste Pedro Sanchez, qui, bien que très minoritaire au cortège, a réussi, par une alliance, comment dites-vous, alambiquée, à devenir Premier ministre. Et il a très rapidement déclaré ceci à propos du mémorial de la basilique de Los Caídos.
Je crois qu'après 40 ans, et surtout pour des générations comme la mienne ou la vôtre, ce débat doit nous mener à une réflexion toute simple. L'Espagne ne peut pas se permettre, en tant que démocratie européenne, d'avoir des symboles qui séparent les Espagnols.
Et quelque chose qui est,
Ce sont des choses inimaginables en Allemagne, en Italie, dans des pays qui ont aussi connu des dictatures fascistes. Et je pense que ça ne peut pas être imaginable dans notre pays non plus. Je ne pense pas qu'il s'agisse de rouvrir des blessures, au contraire. Il s'agit de les refermer, et c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de tous les groupes parlementaires, y compris le Parti populaire. Parce que je me souviens que le Parti populaire, il y a quelques années, déjà avait condamné le franquisme. Par conséquent, tous les groupes parlementaires devraient soutenir cette décision que le gouvernement espagnol a annoncée et qu'il prendra.
Cette décision, c'est de donner congé au corps de Franco et de l'exhumer de Los Caídos, ce qui n'est pas une mince affaire d'ailleurs, Daniel Rosenberg.
Non, parce qu'effectivement, il y a une suite de rebondissements. En apparence, ça semblait assez simple, puisque depuis 2011, il y avait donc des recommandations de retirer le corps du dictateur et de faire du Valle de los Caídos un lieu de réconciliation. Le problème étant qu'on ne trouve jamais exactement le bon moment. La famille de Franco, après s'être vraiment opposée à cette solution, a proposé une solution alternative qui est de transporter le corps du dictateur dans la cathédrale de Madrid, l'Almudena, qui est un lieu central, un lieu emblématique, et donc le gouvernement n'en veut pas.
Et, parce que ce serait
répéter,
donner davantage de visiteurs encore.
Voilà,
Franco.
Ce serait donner à nouveau beaucoup à permettre à nouveau ces pèlerinages, etc. Et donc à suggérer. Donc, a d'abord essayé donc de négocier. La famille s'y est opposée et a d'ailleurs en ce moment même produit un recours contre cette décision. Mais entre-temps, la décision a été prise avec, il faut le dire, en l'ensemble des partis, des forces politiques, l'accord de l'Église et tout récemment.
Enfin, l'accord de l'Église, mais pas de la
hiérarchie.
Pas de l'abbé bénédictin qui dit il faut aller à l'audience suprême, à la Cour suprême, il faut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Mais voici quelques jours, le Vatican a donné ordre donc à ce supérieur bénédictin de se plier aux directives donc du gouvernement. Et donc on en est là en fait. On annonçait donc, alors il y a un lieu qui a été prévu qui serait donc le cimetière du Pardo, localité aux environs de Madrid, où il y a un tombeau familial de la famille Franco. Et c'est probablement ce qui va se décider. Donc ça va être, il semblait que les choses allaient se passer immédiatement ou très vite. Maintenant, on ne sait pas si ça se fera avant ou après les élections.
Si ça se fait avant les élections, Sanchez aura satisfaction. Il n'est pas sûr que les élections et leurs résultats lui donnent satisfaction. Merci à vous, Daniel Rosenberg. Notre thème aujourd'hui, c'était Franco ou comment s'en débarrasser. Et comment la question était-elle posée ou résolue par UNESCO ?
Si on s'en débarrasse, crois-tu que ce soit vraiment utile ? Peut-être il en viendra un autre et la même histoire recommencera.
En tout cas, il sera plus petit. Il ne prendra pas la place tout de suite. On aura le temps de réfléchir avant qu'il grandisse.
Mais c'est juste quelques années de tranquillité relative. C'est toujours ça.
La marche de l'histoire était préparée par Ininka Negulesco, Nolwenn Bokri, Frédéric Martin, Franck Olivard à la technique, Ludovic Asselot, et la réalisation, c'était Lise Combe. Dans un instant, Daniel Fievet, qui est toujours cette semaine à la tête,
oui,
de la tête au carré.
Tout à fait, Jean Lebrun. On va s'intéresser au stress post-traumatique, les traumatismes psychologiques dans la tête au carré.
Voilà. Et nous, demain, on va raconter une autre histoire de la marque Renault, parce que figurez-vous que Renault a eu une grande collection d'art contemporain. Et avant que Monsieur Ghosn ne se consacre au mécénat tel qu'on le connaît aujourd'hui, avait une politique d'aide aux artistes et de présence aux artistes jusque dans les usines. Il est 14h, vous écoutez France Inter.